Les grandes voix d'Europe 1.
10h, 11h, Sébastien Guyot.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 26e débat des grandes voix historiques du samedi, le dernier de la saison. Et oui, déjà, c'est toujours un immense plaisir de retrouver dans ce studio Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour Sébastien.
Bonjour, bonjour, je dis bonsoir.
Il est 10h07, mon cher Charles Villeneuve. Pour cette dernière, je vous propose de nous projeter vers 2022, car la campagne pour la présidentielle a déjà commencé avec un coup d'accélérateur cette semaine et deux nouveaux candidats.
Je suis candidat à la présidentielle, effectivement, avec cette primaire écolo en septembre.
Je suis candidat à l'élection présidentielle.
Yannick Jadot et Éric Piolle, candidat à la primaire écologiste. Côté socialiste pour Anne Hidalgo ?
C'est encore un peu tôt.
C'est encore un peu tôt, mais la maire de Paris se prépare. Et à la gauche de la gauche, il y a déjà Jean-Luc Mélenchon. On est donc loin d'une candidature unique en vue de 2022. À droite maintenant, ils sont trois pour un seul fauteuil. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez. Ce qui fait dire à Gérard Larcher sur Europe 1, le président du Sénat...
On n'est pas candidat naturel parce qu'on le décrète, c'est parce que c'est partagé par les autres.
Nous verrons si un candidat naturel peut se dégager ou s'il faut des primaires à droite. Enfin, le duel Macron-Le Pen est-il toujours aussi inéluctable après les revers de La République En Marche et du RN au régional ? Jean-Marie Le Pen sur Europe 1 avait un avis.
Il faudra savoir si le rejet de Marine Le Pen... est moins fort que le rejet de Macron.
Vous l'avez compris, les grandes voix, plus que jamais, nous avons besoin de votre regard, de votre connaissance de la politique, vous, les observateurs avertis de la Ve République, pour nous permettre d'y voir plus clair. Vous avez le programme, installez-vous confortablement. Le débat des grandes voix, c'est parti. On va donc se projeter vers 2022, mais pour débuter cette émission, les grandes voix, j'aimerais vous poser une question presque philosophique après les 65% d'abstention régionale. À quoi sert encore la politique ? Vaste question, qui veut répondre ?
La politique, de toute façon, la politique, c'est la vie dans la cité. On va tous continuer à vivre dans la cité. Simplement, il faut savoir si on va vivre en ayant un régime où on ne vote plus ou un régime où on vote. La démocratie, c'est un régime où on va voter à un moment ou à un autre. Depuis le Sénat romain jusqu'à récemment.
C'est ce que disait Cicéron.
Mais
c'est
oui, bien, ça. Mais bien. Donc, je parle comme Cicéron, c'est flatteur pour moi. Pas pour lui, mais pour moi.
Les références historiques.
Non, mais je veux
là.
Dire par là que c'est fatal qu'on continue à faire de la politique, mais est-ce qu'on fera de la politique de manière tyrannique ? Est-ce qu'on aura un régime oligarchique sans élection ou est-ce qu'on continuera à faire de la démocratie ?
Oui, je disais ça parce que Xavier Bertrand disait hier que l'abstention avait été éminemment politique.
Non, mais moi je, sincèrement, enfin, c'est mon point de vue, on fait dire à l'abstention des choses qu'elle ne prétend pas exprimer elle-même. On sort du Covid, en tout cas, il semble qu'on sorte du Covid. Bon, il y a un variant qui vient gâcher un peu.
Le Delta qui nous gâche peut-être l'été.
Pour l'instant, on n'en est pas encore complètement sûr. Mais enfin, bon, on ne va pas proférer un certain nombre d'insanités, de mauvaises nouvelles sur ces variants qui s'agitent et cogitent en permanence. Mais il y a, si vous voulez, les gens avaient la tête ailleurs. Il n'y a pas eu de meeting, il n'y a pas eu de campagne électorale. Il y a des gens qui n'ont même pas reçu les professions de foi. Pratiquement un électeur sur deux. Il faut tenir compte de tout ça. Alors, on fait dire un certain nombre de choses. Évidemment, nous sommes dans une société savante. Bon, nous, je pense, ici, nous ne prétendons pas en faire partie complètement. Mais on a, c'est vrai, une certaine expérience. Mais moi, je trouve qu'on fait dire, d'ailleurs, d'autant plus que... Excusez-moi.
On vous excuse,
mais,
allez-y.
Mais la veille même du premier tour, oui. On nous disait...
vous allez parler des sondeurs.
Par exemple,
je sens que vous allez
Muselier,
parler des sondeurs.
Mais rappelez-vous, Muselier, Thierry Mariani, 50-50, ils sont bord à bord. Muselier finit à 57 points. Idem, Marc Fesneau, attention, il est quasiment à 33. Il finit quasiment 10 points derrière. Et quatrième, de la même manière, de toute façon, dans les Hauts-de-France, à un moment donné, on nous dit Xavier Bertrand, bon. Sébastien Chenu, 34-33. On sait évidemment où Sébastien Chenu du Rassemblement National a fini entre 10 et 15 points derrière. Oui. Donc, comment voulez-vous qu'on tire des conclusions savantes ? Et ce que disait très bien... mon camarade et mon confrère néanmoins ami
Gérard Carrérou,
il dit mais la vie politique c'est justement tout ça.
Alors, c'est la vie dans la cité, et cette cité, elle s'exprime, et on verra, attendons les présidentielles pour voir si la politique ne sert plus à rien.
Michel Cotard.
J'ajoute que ces élections-là, c'était des élections auxquelles n'était pas habitué le peuple français. C'est vrai qu'à Paris, avec une liste, ça allait, mais partout dans tous les départements, c'était quand même un peu un casse-tête. Les gens n'y comprenaient pas grand-chose.
Deux scrutins, deux bureaux de vote.
Au fond, qu'est-ce que c'est les grandes régions ? Ce sont les personnalités qui les dominent. Et d'ailleurs, on va aboutir à des rôles de personnalités plus que des rôles de parti.
Ça fait penser aux grands féodaux de la monarchie. Voilà.
Or, ces grands féodaux, ils n'avaient pas démérité. Chacun dans la région, et à gauche et à droite. D'ailleurs, ils avaient fait la même chose. Moi, je voudrais bien qu'on me dise en quoi, par exemple, la politique sur le maintien de l'ordre pendant le Covid ou le maintien de la Covid est différente selon des régions de droite et des régions de gauche. C'est pour ça qu'ils ont été réélus tout naturellement. C'est vrai que c'est pas un scrutin dans lequel on s'est senti vraiment concerné pour la vie de la nation.
Alors, on va se projeter vers 2022. Catherine Ney, vous avez certainement lu les journaux ce matin. Je vais vous le dire. Dans le Figaro, il y a une interview de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui dit, voilà, après la déroute de La République En Marche au régional, il appelle à plus d'humilité. Qui a manqué d'humilité du côté de la majorité?
Plus d'humilité, c'est-à-dire, moi je crois aussi qu'il faut mettre en cause les sondeurs, parce qu'ils ont laissé des espoirs à des gens qui ont fait des scores assez minables, vous voyez. Et moi, après mes camarades qui ont dit des choses que je pensais, donc je ne vais pas répéter, mais moi je crois que les Français, ils ont fait de la politique. L'abstention, ça veut dire que c'est vrai qu'il y avait le ras-le-bol, il faisait beau, ils se sont dit, il n'y a pas d'urgence. Mais ceux qui ont voté ont remis les gens qui étaient en place, et c'était ceux qui savaient que, politiquement, ils avaient en tous les cas fait la politique qui leur convenait, qu'ils avaient fait la politique qu'il fallait dans leur région. Donc c'est quand même, c'est des gens qui savent reconnaître que la politique sert à quelque chose, ceux qui ont voté. Vous voyez, bon.
Alors, vous parliez des sondeurs. On ne va pas non plus prospecter sur les sondages qui fleurissent à 9 mois de la présidentielle et qui ne veulent pas dire grand-chose.
D'autant qu'on les reprendra nous-mêmes dans quelques mois.
Néanmoins...
Ce qu'ils ont pu dire sur Marine Le Pen, écoutez, elle pouvait dire, d'ailleurs quand elle voyait les journalistes, quand je serai présidente de la République. Ça, c'était déjà... Oui, c'était...
Alors, elle vise déjà le deuxième tour. Et aujourd'hui, dans les derniers sondages, malgré tout, que vous avez certainement lu cette semaine, elle est distancée davantage par Emmanuel Macron. Est-ce que le résultat des régionales change quelque chose,
oui,
Gérard Carrérou?
C'est à mon avis, hormis le fait que cette abstention quand même a un côté regrettable, le principal résultat positif, parce qu'il y en a quand même un, c'est que c'est comme un scrutin qui a servi comme un ouvre-boîte. Nous avions une élection, un ouvre-boîte pour la tête des gens. Dans la tête des gens, et ils le déploraient à 70%, on avait l'impression d'une fatalité pesante. On va se refaire le même match qu'on s'était fait en 2017. Et on n'en a pas vraiment envie. Pas plus ceux qui sont pour un côté que pour l'autre.
Oui, jusqu'à 80% des Français qui disent on ne veut pas
de ce duel. Et grâce à ce scrutin, on a ouvert la boîte. Alors, il n'y a pas eu besoin de meuleuse ou de perceuse, comme dans certains coffres-forts.
C'est ça ?
Là, c'est le vote qui a ouvert la
justice.
On a ouvert la boîte. Je veux dire par là que maintenant, le jeu est un jeu qui est ouvert au sens propre. Il y a peut-être 3 ou 4 possibilités, au moins 3 ou 4, d'avoir quelqu'un d'autre au deuxième tour, puisque c'est une élection à 2 tours, et au deuxième tour, que ceux qu'on avait prévus au départ. Eh bien ça, je trouve que ça fait plaisir à beaucoup de gens, tant mieux.
Parce qu'une élection présidentielle est toujours une surprise. Et là, c'est une surprise qui est peut-être prévisible. C'est-à-dire qu'il va y avoir un résultat qui n'était pas prévu. Et donc, tout est ouvert
comme
aujourd'hui.
Comme souvent à 9 mois des élections présidentielles. Vous qui avez cette expérience du regard sur la Ve République, 9 mois avant, on ne savait pas qu'Emmanuel Macron, par exemple, allait faire un tel score.
On a quand même des enseignements. Oui. On a quand même des enseignements. L'extrême faiblesse de la Macronie, l'émergence d'un troisième homme ou d'une troisième femme, qui est une hypothèse que maintenant nous sommes obligés de mettre sur la table.
Mais et puis
rappelez-nous son nom.
Oui.
Alors vous parlez
pas seulement Bertrand, mais Madame Pécresse.
On ne vous entend plus, les grandes voix. On va continuer ce débat, Michel Cotta. Je vous donne la parole juste après une première pause que je dois marquer. Il est 10h17 sur Europe 1 et on continue à parler justement de ces enseignements des régionales et surtout de se projeter vers 2022. À tout de suite.
Les grandes voix d'Europe 1.
En compagnie des grandes voix d'Europe 1, Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta, on se projette vers 2022, après ces régionales. Aujourd'hui, il y a le congrès du Rassemblement National qui s'ouvre à Perpignan. Marine Le Pen est l'une des perdantes de ces régionales, on l'a dit. Est-ce que sa stratégie de dédiabolisation doit être remise en cause? Écoutez ce que disait sur Europe 1 cette semaine le délégué du parti dans l'Hérault, Bruno Le Rognon.
La raclée électorale qu'on vient de se prendre est la manifestation que cette stratégie d'ouverture a ses limites. On oublie qu'il y a une soustraction à faire derrière tout ça. On perd nos militants, nos adhérents qui sont attachés à nos valeurs, à notre famille politique et qui ne s'y retrouvent pas dans ces personnages qui, du jour au lendemain, se trouvent tête de file de nos listes.
Michel Cotta, bon, depuis, il a démissionné. Est-ce que Marine Le Pen, qui doit prononcer un discours demain, doit revoir sa stratégie de dédiabolisation?
En tout cas, elle doit se poser des questions. Et c'est celle, dans le monde politique aujourd'hui, qui doit se poser le plus de questions. Parce que quelque part, depuis un an, on part sur le Front National en grange, le Rassemblement National, quoi qu'elle fasse, ça marche, les mécontents viennent à elle, etc. Non, voilà, les mécontents, ils ne sont pas venus à elle, ils sont restés à la plage. Bon. Alors, est-ce que c'est le phénomène d'une dédiabolisation? Moi, je crois que c'est possible, parce qu'à partir du moment où Marine Le Pen dit « je rembourse la dette, je reste en Europe, naturellement l'euro », alors, en quoi se différencie-t-elle d'une droite classique ou même de la droite macroniste? Premier point. Deuxième point.
Sur ce terrain-là.
Il faut dire que son père lui a quand même flanqué deux coups absolument énormes cette semaine.
Dans un de ses blogs,
Non sans une certaine jouissance quand même, parce que
ça c'est sûr.
En disant que il fallait qu'elle se virilise. Moi je trouvais qu'elle était plutôt virile, hein, Marine Le Pen, quand elle parle, mais il faut qu'elle se virilise.
Non, elle s'est féminisée beaucoup.
Justement. Et au fond maintenant, être viril, ça veut dire quoi? Ça veut dire reprendre dans l'esprit de Jean-Marie Le Pen les bons vieux thèmes sur l'immigration, etc. Le problème est qu'ils sont plus seuls du tout à reprendre ces termes. Et qu'on voit une droite classique qui reprend ces termes, et même d'une certaine façon, un Darmanin à l'intérieur de la majorité qui reprend ces thèmes sécuritaires. Donc il y a quelque part, je ne sais pas si c'est une dédiabolisation, mais il y a une banalisation de Marine Le Pen, et elle doit en effet se poser des questions.
Donc s'il n'y a pas plus de virilité, le Rassemblement National va disparaître, comme le laisse entendre Jean-Marie Le Pen?
Il ne va pas forcément disparaître à terme, c'est un parti qui... Mais en fait, Catherine, je vois que Catherine...
Non, vas-y.
Je vais être très court. Je veux dire simplement, il me semble que... Moi, je pensais, avant les régionales, pour tout dire, qu'il n'y avait pas de majorité à 50 plus pour Marine Le Pen à la présidentielle. Je pensais qu'elle serait battue. J'ai pris cette élection comme une confirmation. Et je dirais pourquoi, je ne vais pas m'étendre, pour deux raisons. Une qui tient à la ligne politique et au changement de la ligne politique qui était effectivement, qui oscillait depuis quelque temps entre la ligne traditionnelle et une ligne dite arrondie qu'avait souligné Darmanin. Donc ça, c'est mauvais pour un parti de changer de ligne comme ça dans la bataille. Et deuxièmement, la personnalité de la candidate. Je pense qu'elle n'a pas toutes les qualités que les Français cherchent pour avoir un président de la République. Pas parce que c'est une femme, hein. Je dirais tout à l'heure du bien des femmes, j'en ai même dans le collimateur.
J'allais dire la même chose, c'est-à-dire que l'abstention, pourquoi l'abstention du Front, on croyait qu'elle avait un socle et que vraiment ça allait être sa fête. Mais parce que c'est la protestation d'électeurs qui jugent qu'elle n'est plus protestataire et qu'ils n'y trouvent plus leur compte. Et donc, elle a adouci, elle s'est adoucie, elle a, comme on vient de le dire et tout ça. Donc, elle a perdu sa fonction tribunicienne, mais sans légitimer sa capacité à gouverner. Et que dans tous les sondages, on voit qu'il y a un doute sur sa capacité à gouverner. Moi, je pense qu'elle ne va pas changer de ligne. Je pense que le Front National, le Rassemblement National va la désigner comme candidate parce qu'il y a bon, et que dans 6 mois, soit c'est quitte ou double et que ça sera fini de Marine Le Pen.
Charles Villeneuve.
Écoutez, que le rayonnement du Rassemblement national et de Marine Le Pen soit terni, oui, mais pour autant, l'astre n'est pas mort, parce qu'il n'en reste pas moins que 20% d'électeurs ont voté Rassemblement national. C'est un socle moins solide qu'auparavant, en effet. C'est vrai que, de toute façon, elle n'est plus anti-système, en tout cas, tout ce qu'elle a amoindri fait qu'on n'a plus le sentiment, une partie en tout cas de cet électorat qui vote Rassemblement national, a le sentiment, l'intime conviction, que ce n'est plus la voie de l'antisystème, que le Rassemblement national ne l'est plus, mais il lui reste 20% de son socle.
Et on a le sentiment, Michel Cottard, on a le sentiment qu'elle craint une candidature éventuelle d'un Éric Zemmour, par exemple.
Oui, est-ce que vous êtes... En revanche, je voulais juste ajouter sur le Front National quelque chose qu'on a découvert cette semaine, et qu'on ne... enfin, que pour ma part, je ne savais pas vraiment. On a toujours l'impression que c'est un parti organisé, un parti de cadres, un parti et de cadres et de militants. Et de quoi s'est-on aperçu quand on revient sur les campagnes, par exemple, dans le Hauts-de-France, de quoi c'est parce que c'est un parti désorganisé, sans argent. Ben oui. Là, on voit le pauvre
Sébastien.
C'est ce
que dit toujours Catherine.
Endetté.
Elle rappelle que les caisses sont vides.
On voit
l'organisation, ça coûte cher.
Le pauvre Sébastien, si j'ose dire, le pauvre Sébastien Chenu, commencer une campagne avec 30 000 balles, 3 000 balles d'un côté, 3 000, avoir un camion qui coûte 6 000 euros la semaine. Bon, on a l'impression quand même que ce parti, quand jugé organisé de ce point de vue-là, on sait qu'il y a des problèmes d'argent, on pensait quand même que d'autres pouvaient suppléer sur une campagne comme ça. Eh bien, on s'est aperçu que, un, les compétences, tu as raison Catherine, sont vraiment mises en question, mais aussi les moyens.
Oui.
Les moyens, c'est l'ouverture, pardon, je finis, c'est l'ouverture sur la campagne de Chenu, on voit bien l'ouverture à des petits aigrefins qui sont entrés dans le Front National dans le but d'aider la campagne.
Qu'est-ce qui rapporte de l'argent quand on n'emprunte pas? C'est les élus locaux. Or là, dans les régions, elle en a perdu 30% des élus qu'elle avait. Et pareil au municipal, où elle en a beaucoup perdu. Elle n'a plus de socle. Donc, elle a toujours 20%, mais c'est théorique. Parce que si ces 20% qui veulent toujours voter pour elle voient que sur le terrain, il n'y a pas de relais, il n'y a pas l'argent pour... Parce qu'il faut animer la région, il faut des gens qui font des réunions.
On verra bien.
Non, mais c'est pour ça que moi, je pense qu'elle est très en danger.
On ne parle que des régionales, on oublie les départementales, parce que les départementales, ça a été une vague.
Oui, où elle a perdu, en effet, 30% d'élus.
Oui, elle a perdu, mais
pas seulement
elle.
Oui. Alors, on va continuer sur le spectre de l'échiquier politique.
La Macronie est inexistante sur les départementales.
On va parler de la droite, on va parler de la gauche dans un instant. Juste un mot, j'évoquais Éric Zemmour.
Oui, justement, je veux dire un mot sur Zemmour.
Sur une éventuelle candidature. Alors, il y a déjà eu un sondage, ça ne veut pas dire grand-chose qu'il donne à 5%. Ce matin, dans Libération, il y a un sondeur d'Aris Interactive qui dit il dit plutôt que ça mange sur la droite que sur l'extrême droite.
Écoutez, moi je pense personnellement que n'importe qui, même le plus brillant, ne peut pas devenir un candidat à l'élection présidentielle. Je pense, et je vais faire une comparaison qui est, comme toutes les comparaisons, qui peut être discutable et discutée. J'ai tellement vu aux États-Unis ce qu'on appelle les télé-évangélistes américains, c'est-à-dire des gens qui ont un extraordinaire pouvoir sur les foules, qui rassemblent des milliers de gens dans des meetings, etc., parce qu'ils ont une émission de télévision. Alors vous me direz, en plus, il y a Trump au bout de la route. Mais Trump, ce n'était pas seulement un télé-évangéliste. Trump, il y avait beaucoup d'autres choses. Donc je ne parle pas de Trump. Je parle de Billy Graham et de tous ces télé-évangélistes américains. Je pense que Zemmour, aujourd'hui, on en parle énormément, c'est un polémiste, un imprécateur, mais c'est aussi un télé-évangéliste. Et c'est tout le contraire, à mon avis, d'un bon candidat à l'élection présidentielle. Je pensais qu'il n'irait pas. Je pense aujourd'hui qu'il va y aller. Et je pense qu'il fera un petit score.
Et on suivra cela et on va continuer à se projeter vers 2022 juste après une pause en continuant de se balader justement sur cet échiquier politique. Qui sera le roi? Qui sera la reine? Le fou? Le cavalier? Ou de simples pions? C'est un vrai jeu d'échecs. Peut-être version House of Cards. On voit ça dans un instant. Alors, le débat continuait en studio pendant cette pause. Catherine, Neve, vous vouliez ajouter quelque chose à propos d'Éric Zemmour.
Zemmour,
quand vous l'écoutez. Catherine,
s'il vous plaît. Mais il vient sur le terrain de Marine Le Pen. Mais à sa différence, il a une densité intellectuelle, des connaissances historiques. Enfin, il se pose des questions, il vous prend la tête. Mais il n'a pas la densité physique qui fait qu'on se dit, voilà, il sera président de la République. Voilà, c'est comme ça.
François Mitterrand disait de Michel Rocard, on ne voit pas les Français élire quelqu'un qui pèse 40 kilos. C'est horrible. Hein.
Alors, on va passer à la droite désormais, si vous le voulez bien. Ils sont trois prétendants désormais. Xavier Bertrand déjà déclaré, Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez. Trois présidents de région largement réélus, mais aucun candidat naturel. Alors, comment trancher? Écoutez ce que disait cette semaine sur Europe 1 le président du Sénat, Gérard Larcher.
Écoutez, pour avoir rencontré tout le monde, l'avoir fait encore tout à fait récemment, je fais confiance au sens des responsabilités de chacun. Ils sont chacune et chacun persuadés qu'il ne nous faut qu'un seul candidat, seule candidate. Et je fais confiance à ce sens qu'ils ont candidat. Du service de l'État et parce qu'ils ont gagné. Parce qu'ils ont gagné de manière assez exceptionnelle. Je suis persuadé aujourd'hui que nous allons pouvoir dégager ce candidat ou cette candidate.
S'il continue de s'imposer dans les sondages, Xavier Bertrand pourra vous dire, mais moi je suis le candidat naturel, je suis le mieux placé pour déjouer le match.
Ce sera un constat collectif que nous ferons, parce qu'on n'est pas candidat naturel parce qu'on le décrète, c'est parce que c'est partagé par les autres.
On n'est pas candidat naturel parce qu'on le décrète, mais parce que c'est partagé par les autres. Alors comment on les départage? Via une primaire?
Ils réfléchissent à ce qu'ils vont faire.
Non, mais c'est dans les statuts des Républicains. Oui. La primaire. Mais il y en a un qui n'en veut pas.
Xavier
et
Bertrand.
Et qui ne participera pas à une primaire. C'est Xavier Bertrand.
Mais il n'est plus au, il est plus au Républicain.
Mais Valérie Pécresse non plus.
Oui, mais elle n'a pas. Elle a gardé des liens avec les Républicains.
Mais Bertrand aussi. Bertrand aussi a des liens, évidemment.
Bah, la preuve, c'est qu'il a des soutiens.
Mais non seulement il a
donc
des soutiens au sein même.
Vous imaginez quoi? Qu'il y aura une primaire sans Xavier Bertrand? Que Xavier Bertrand ira seul?
Non, mais moi,
qui va se dégager
dès
naturellement.
Dès le départ, je vous ai dit que Bertrand ne fera alliance avec personne. Michel était sur la même ligne et qu'il mourra avec ses idées. Et que lorsque le président de la République a envoyé cette phalange de ministres pour essayer, évidemment, d'augmenter le score et de tendre le bras de Xavier Bertrand pour faire alliance au second tour, il a échoué. Mais Bertrand a dit dès le départ, et vous verrez qu'il tiendra parole, il ne participera pas à une primaire.
Alors
comment
vont-ils
se départager? Eh bien, cher ami, si vous avez la réponse,
C'est à vous que
formidable.
Je la pose, c'est vous les spécialistes.
Vous posez des questions, c'est très bien, mais des fois, on n'a pas de réponse.
Mais bien
sûr,
en revanche, moi, je me souviens dans ce studio, Gérard Carrérou, dans ce studio, vous l'aviez dit, vous l'aviez qualifié de poids moyen.
J'ai dit, c'est un poids moyen de la politique, mais il a eu un mérite, c'est de s'engager avant tous les autres. Il a pris aujourd'hui, une avance considérable. Quoi qu'on dise, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont des qualités, je pense à Pécresse, je pense aussi à Wauquiez, qui a un côté... Et le seul truc de Wauquiez, c'est qu'il a un côté... Oui. Wauquiez Tinville qui me... Parfois fait un peu peur, oui. Mais à part ça...
Wauquiez Tinville qui était évidemment le procureur du tribunal révolutionnaire.
Absolument, merci pour la référence. Voilà.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il a pris une avance considérable. Et je pense qu'il a raison de garder cette idée de dire « Moi, je ne négocie pas, j'y vais ». Il va, qu'est-ce qu'il tente de faire? Et il est plutôt bien parti. Il essaye de montrer que dans tous les sondages, alors malgré le discrédit des sondages dans certains cas, mais dans tous les sondages qui vont être faits dans la rafale qui va venir dans les 6 prochains mois, il sera toujours en tête. Alors, et s'il est toujours en tête, il deviendra, qu'on le veuille ou non, primaire ou pas primaire, le candidat naturel du parti.
Enfin là, il y a eu des sondages qui ont dit tout et son contraire cette semaine. On l'a vu à 18%, 20% et 14%. On l'a vu à 1 entre 18 et 20. Entre 18
sinon,
et 20.
Harris, sinon, il est Interactive 14. De 13, il est à 17. Ipsos, de 14, il est à 18. Opinion Way, il était à 15, il passe à 20.
Et le dernier, il est à 14 hier.
On a eu quand même l'habitude.
Évidemment, a tweeté partout.
On a quand même un peu l'habitude et le sentiment des temps. Au fond, qu'est-ce qui compte le plus dans un homme politique? Finalement, ce n'est pas l'intelligence. Ce n'est pas forcément l'intelligence. C'est la détermination. Et cette détermination, je note simplement qu'il a eu depuis longtemps...
Il n'est pas intelligent.
Non, il a eu depuis très longtemps... T'as raison, mais il a eu depuis très longtemps, puisque dans son discours que je relisais l'autre jour, où il disait « J'abandonne la vie politique nationale pour aller dans ma région, on sentait déjà que son chemin et son schéma étaient prêts. C'était « je passe par la région et après je reviens sur le national ».
Et d'ailleurs, on l'a entendu, Michel Cotta, dans son premier discours, hier, en tant que président de région, il a mis l'accent sur le pouvoir d'achat, sur la valeur travail. Est-ce qu'il a endossé quelque part, Catherine Ney, les habits d'un Nicolas Sarkozy en 2007?
Non, il a endossé ses propres habits, il se voit tout à fait en président de la République. Mais moi, je crois que ce qui le grandit dans le regard des autres, c'est la peur qu'en avait Emmanuel Macron. Parce que quand même, pour envoyer 5 ministres dans le Nord, et en disant, mais on fera, et ils allaient être ceux qui allaient dire, parce que, disait-il, il avait prononcé des paroles létales, c'est-à-dire mortelles, en disant, écoutez, je vous mets l'Isée et après je m'en vais. Et ils étaient persuadés, les macronistes, que le fait d'avoir dit ça, les électeurs vont dire, comment on élit un type qui va nous quitter. Eh bien, pas du tout. Ils sont allés à 5 ministres, on voit le score qu'ils ont fait. La campagne navrante du ministre de la Justice, qui est un avocat immense et qui sait politiquement, quand même, qui n'a pas envoyé de lui des images très valorisantes. Et moi, de voir le premier dimanche, le couple Macron allait voter au Touquet. Et je trouvais que pour le symbole, Brigitte était en noir. C'était mauvais présage, vous voyez.
Le voilà. Parfum bon, de la femme en noir.
Oui. Oui. Et que le deuxième tour, eh ben c'était, ils ont forcément voté, enfin ils devraient avoir voté. Moi je trouve que ça donne, vous voyez, ça donne un plus à Xavier Bertrand.
Le plus politique, il l'a eu tout de suite, en attaquant. Ça m'a même surpris l'intensité, la façon dont il a attaqué très très fort le Front National. Tout de suite. C'est-à-dire qu'il est positionné aujourd'hui de celui qui vous dit, entre Macron, vous ne voulez plus de Macron, vous ne voulez pas du Front National, moi je ne suis ni avec l'un ni avec l'autre. Et ça, c'est Bertrand. Je pense que pour l'instant, c'est sa marque de fabrique.
Mais, Charles Villeneuve.
Vous savez, moi je trouve que la présidentielle, ce n'est pas l'affaire des partis. C'est l'affaire de la volonté d'un homme. De son autorité, de ce qui émane de lui, de sa légitimité. Cette légitimité, de toute façon, dès le départ, il l'a eue en étant doublement candidat. Tout le monde a dit, il se met un boulet au pied en étant candidat à la présidentielle, annonçant qu'il va être élu président des Hauts-de-France, et qu'en même temps, en réalité, il ne restera pas, il fera sa campagne, qui va commencer d'ailleurs après le 14 juillet, dans toute la France, où il ira tester ce que lui ont dit les électeurs de Hauts-de-France. Terre de gauche, ne l'oubliez pas.
Michel Cotta, je sais que vous voulez dire un mot. Soit c'est très rapide, soit c'est juste après la pause. Mais vraiment, après la pause, en deux secondes. Alors on marque une pause, merci Michel. Et on se retrouve pour la poursuite de ce débat des Grandes Voix en compagnie de Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. À tout de suite.
Les Grandes Voix d'Europe 1.
En compagnie de Gérard Carrérou, Charles Villeneuve, Catherine Ney et Michel Cotta pour ce débat des Grandes Voix consacré à cette prospective vers 2022. On a parlé de Marine Le Pen, d'Emmanuel Macron, de la droite. Vous vouliez, avant qu'on parle de la gauche, ajouter un mot sur la droite.
On voit bien donc ces trois candidats qui s'élèvent après les primaires. Là, vraiment, pour le coup, on ne peut, si on est à droite, en tout cas, les appeler qu'à la raison. Parce qu'évidemment, s'ils veulent y aller tous les trois, de toute façon, Bertrand ne se retirera pas. Je crois que c'est acquis, et ne se retirera pas. Donc s'ils veulent effectivement donner un autre candidat à la droite, classique, il y en aura deux. Je ne suis pas sûr que ce soit favorable à aucun des deux. Donc il y a quand même une obligation pour les Républicains de faire attention, oui, de mettre leurs pieds et de faire attention à... ils ne peuvent plus dire « Ah non, Bertrand ne fait plus partie de nos rangs ». Ça, c'est plus possible.
Alors, dans un autre
et
registre...
Et surtout, moi, je dirais que, vous voyez, pour les Républicains, il y a eu un espoir, il y a un an, c'est-à-dire on misait sur François Baroin. Oui. Parce qu'il avait une expérience politique, une densité, une connaissance du terrain qu'il pouvait revendiquer et dont il faisait d'ailleurs... reproche
oui, président
président
de l'association
des maires de France.
Mais vous parliez d'envie et de bien discret.
Et puis, il était à Troyes, il était un très bon maire, mais voilà, il n'en a pas envie.
Que l'envie.
Il lui manquait que l'envie.
C'est
qu'il n'a jamais eu. Donc, on espérait, parce qu'on se disait, il aurait peut-être les qualités. À partir du moment où on dit, il réfléchit encore, mais c'est tout réfléchi, il n'ira pas. Eh bien, là, ça laisse la voie libre à Xavier Bertrand.
Alors, à gauche, désormais, il y a deux candidats officiels à la gauche de la gauche, hein, Jean-Luc Mélenchon pour la France Insoumise, Fabien Roussel pour le Parti Communiste, et deux nouveaux candidats cette semaine, chez les écologistes, pour la primaire, en tout cas, Yannick Jadot et Éric Piolle, le maire de Grenoble. Ils sont donc trois, hein, parce qu'il y avait déjà Sandrine Rousseau, l'ex numéro 2 des écolos. Pourquoi, à votre avis, ce coup d'accélérateur spécifiquement cette semaine, Gérard Carrérou ?
Parce qu'il faut profiter quand même, effectivement. D'abord, avant les vacances, hein, on entre dans les vacances, il fallait profiter tout de suite. Et puis, bon, les écolos, ils vont être trois ou quatre candidats, à mon avis.
Mais ils sont trois pour l'instant.
Plus ils sont, plus ils se neutralisent les uns les autres, ça ne me dérange pas trop. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, aujourd'hui, elle a deux pieds. Elle a un pied qui s'appelle le Parti Socialiste, et on a vu qu'il résistait dans ses fiefs un peu partout. Et on a le deuxième pied, c'est les écolos, qui ont fait des résultats qui ont été plus discutés. Mais ce qui va se passer, c'est qu'il ne peut y avoir, pour arriver toujours le deuxième tour, il faut 20 points pour être au deuxième tour, il faudrait un candidat ou une candidate qui fasse l'alliance entre les deux pieds. Ça peut arriver, et c'est ce que vise Mme Hidalgo. Sauf que je pense que Mme Hidalgo n'y arrivera pas. Elle ne sera pas la candidate consensus. Et il y en a une, alors là, je vais risquer, et je vais vous faire rire, mais on est là pour rire aussi.
Allez-y.
Je vais vous dire que j'ai trouvé formidable Madame Carole Delga,
oui,
qui a été réélue, qui a été élue et réélue brillamment dans sa région, l'Occitanie. C'est un peu ma région de mes ancêtres, alors donc c'est une région que j'affectionne. Et elle a toutes les qualités. Elle a un accent, elle est du peuple. Elle est quelqu'un qui sait. C'est la méritocratie républicaine, elle typique, et elle n'a pas tout ce rejet, cette capacité de cristalliser les rejets qu'a Hidalgo. Madame Hidalgo a tous les rejets et elle a tous les autres avantages.
Oui, la candidate qu'on n'a pas vu venir.
Non, mais la question que vous posez, c'est le coup d'accélérateur.
Oui.
Le coup d'accélérateur, il est lié uniquement aux écolos. Et c'est pour affirmer leur prééminence sur le Parti Socialiste. C'est ça, le coup d'accélérateur. Alors maintenant qu'il y ait Delga, et c'est vrai que non seulement elle a été élue brillamment, mais en plus elle a fait progresser son socle électoral.
Non,
ce
mais
qui
vous
est
avez
extrêmement
vu le changement
rare
de pied.
Cette élection.
Vous avez vu le changement de pied du Parti Socialiste. C'est même, il y a quelque chose de presque ridicule à l'idée que juste avant les élections, Olivier Faure pour le Parti Socialiste disait « Bon, il faut comprendre qu'une force majeure, c'est les écolos, on peut se mettre derrière ». Et puis, dès que les élections ont eu lieu, il a au contraire dit non, la force majeure, c'est le Parti Socialiste, et donc tout s'engage.
Et il dit qu'Hidalgo serait excellente.
Oui, voilà. Non, mais c'est la thèse d'ailleurs, dès le départ de François Hollande,
on parlait
qui
des
était
décifs,
contre la position de Faure.
Sur les écolos, en disant nous sommes
écolos,
encore la première.
En disant ne
la
nous
première.
Laissons pas faire. Alors, la prééminence, c'est le Parti Socialiste.
Donc on sent quand même que les ferments de division que nous évoquions sur la droite,
oui,
existe aussi sur la gauche. Quand on a quatre candidats verts qui ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres. Parce que
donc
Jadot,
trois officiellement pour le moment.
Ouais, d'accord. Jadot est vraiment plus proche du centre droit que les autres. Bon, alors on a quand même un panorama formidable des candidats verts. On a un panorama compliqué des candidates candidate socialiste, on n'est pas encore sorti de l'auberge, sans oublier Mélenchon.
Oui, justement,
Mélenchon. Quand Mélenchon dit « Moi, je suis un rocher dans cet univers, moi, j'existe depuis longtemps, personne d'autre que moi existe », quelque part, on ne peut pas lui donner tort.
Catherine,
on ne peut pas lui donner tort, mais ce qu'on voit, c'est qu'il n'arrête pas de chuter dans les sondages. Mmh. Et là, le dernier sondage, alors on y croit ou on n'y croit pas, il a perdu 16 points chez les sympathisants de gauche. Oui. Alors, il dit j'y vais seul en solo, mais cette fois, il n'a pas le soutien des communistes qui vont partir. Alors, les communistes, qu'est-ce que ça complique des visions ? Mais grâce aux communistes, alors, est-ce que c'est vrai ? Il avait quand même, dans les signatures, au moins 200 maires communistes. Et là, cette fois-ci, est-ce qu'il aura ses signatures ? Enfin, je pense que oui. Voilà. Mais je veux dire, il était en bonne position. On se disait, c'est le premier qui est au-dessus de la première fraise sur le panier. Là, moi, je pense que l'aura du leader du Front National, de la France Insoumise, qui n'est absolument pas contesté.
Qui change de nom en plus. Hein.
Oui, on n'est pas du tout, est en position moins favorable qu'il y a.
Mais le rock est largement.
Mais d'ailleurs, on le voit.
Non, mais la variété à gauche est quand même assez importante. Ils ne sont pas sur la même position idéologique. Et deuxièmement, vous savez très bien que l'unité obligatoirement ne fait pas le bon score, on l'a vu, dans les Hauts-de-France.
Alors, la division... dans le cas de Mélenchon, il est évident qu'en changeant de nom, puisqu'il change de nom, sa campagne change de nom, le Rassemblement de la gauche, et il dit « moi, c'est pour être dans la ligne porteuse de l'Amérique du Sud », franchement, on ne peut être que critique.
Alors on
ne peut pas continuer que stupéfaite même.
Oui, oui. Ma chère Michèle, à continuer à parler de cette division à gauche dispersée façon puzzle. Dans un instant, dernière petite pause et dernière ligne droite pour ce débat des grandes voix jusqu'à 11h. A tout de suite. Le débat des grandes voix avec Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. On va parler d'Emmanuel Macron à présent. Juste une dernière question sur la gauche qu'on évoquait avant. Vous vous souvenez de cette photo de famille au mois d'avril où ils étaient tous réunis, les leaders de la gauche, et on avait même entendu...
À l'initiative de Jadot.
Voilà, et Jadot et Hidalgo s'étaient mis d'accord sur le principe pour une candidature commune. C'est encore envisageable aujourd'hui ?
Ah, ça me semble plus difficile, là.
Ça va être compliqué.
Oui, parce que Jadot est candidat. Est-ce qu'il se retirerait pour... ça, je ne crois pas.
Alors, les enseignements maintenant...
Non, quand même, il y a un fait quand même notable, moi, je trouve, c'est qu'autour de Mme Hidalgo, non seulement elle a le soutien du Parti socialiste, mais de tous les grands élus socialistes.
Il y a eu un appel de 200 élus de région cette semaine.
Et donc, il est bien évident qu'à gauche, Mme Hidalgo sera la candidate du Parti socialiste. Et là, vous avez vu la publicité tournée par le premier secrétaire du Parti Socialiste, M. Faure, qui vient dire de manière extrêmement discrète merci à tous les électeurs socialistes. Vous l'avez vu peut-être ce matin sur les écrans de télé. Il y a un côté comique, mais il y a un côté aussi d'une résurgence quand même du Parti Socialiste classique. Comme ça a été le cas à droite à travers le Parti Républicain.
Et qui gardait en effet 5 régions.
Les partis de l'ancien monde, je ne sais pas s'ils sont ressuscités, mais en tout cas, ils ont pesé.
Oui, alors, ce que je disais tout à l'heure personnellement pour Mme Le Pen, c'est-à-dire, attention, il y a la stratégie et puis il y a le personnage. Je pense que pour Mme Hidalgo, ça joue déjà contre elle. Il y aura peut-être l'union stratégique, la pétition des grands élus, etc. Mais je pense que sur le personnage, cette femme aujourd'hui n'a pas les... Je vais être doux et aimable. N'a pas toutes les qualités requises, bien que réélue maire de Paris, par surprise un petit peu, mais elle n'a pas toutes les qualités requises.
Ça, c'est doux et aimable. Hein,
oui, pour faire effectivement la bonne candidate de gauche. C'est pour ça que j'ai parlé. Ce n'est pas une blague de Carole Delga dont j'ai parlé tout à l'heure.
Oui, qui soutenait jusqu'à présent.
Qui soit authentiquement les tréfonds des socialistes. Elle n'est pas ça, Mme Hidalgo. Bon,
tu as raison. Je crois qu'on ne peut pas finir cette émission sur relever le paradoxe numéro 1. Nous avons tous dit que l'organisation présidentielle était asymptotique à zéro dans les régions, et ça s'est vu. Moyennant quoi, on a tous dit immédiatement, 2 jours plus tard, parce qu'il y a un sondage qui est opportunément sorti, que Emmanuel Macron restait un des leaders pour la présidentielle, et qu'au fond il n'avait pas tellement été impacté par cet échec de son parti. Et maintenant, c'est vrai que peut-être beaucoup de gens ne veulent pas d'un débat Macron-Le Pen. Peut-être quelqu'un s'interposera comme Bertrand, au milieu de ce duel. Il reste que Emmanuel Macron, on ne peut pas dire il a perdu les régionales, donc il ne sert plus à rien. Ça, ce n'est pas vrai.
Alors, vous faites référence en effet à un sondage
perdu les régionales.
Emmanuel Macron,
c'est évident. C'est
certain. Oui. Mais qu'il ait perdu la présidentielle,
c'est pas du tout évident.
Tout la même chose.
Mais vous faisiez référence à un sondage qui le donnait à 60% face à Marine Le Pen, 40%.
Mais toujours le même.
Voilà. Donc il faut se méfier. On est d'accord. Non, pas du tout. Il faut se mettre d'accord. Les sondeurs, on les oublie. Et je l'avais dit au départ, à un an de la présidentielle, ça ne veut pas dire grand-chose. Sur le fond, maintenant, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il peut faire dans les semaines qui viennent? On sait que le 14 juillet, il va parler. Est-ce que la réforme des retraites va revenir sur la table et est-ce que c'est un danger pour lui? Et il n'y a pas une peur de voir la rue de nouveau, le peuple de nouveau dans la rue, les gilets jaunes ou autre?
Ça, je ne crois pas qu'il y ait un grand mouvement de 2 millions de personnes ou 1 million de personnes dans la rue. Mais je crois qu'il a pas intérêt quand même à s'y risquer. Il a peut-être intérêt à dire qu'il fera... dans son programme présidentiel qu'il fera à la réforme des retraites avec la durée à 64 ans, peut-être peut-il l'annoncer, mais s'y lancer maintenant avec... Nous n'oublions pas le calendrier quand même, c'est important. On est, aujourd'hui, je mets de côté le mois d'août jusqu'à la fin du mois d'août, il reste 8 mois. 8 mois, c'est très court en politique, 8 mois pour la campagne, l'avant-campagne et la campagne. Je ne crois pas qu'il puisse faire une réforme grave, enfin fondamentale comme celle des retraites pendant ces 8 mois. Alors qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Ben, d'abord, il peut gérer effectivement, éventuellement, la nouvelle crise de la Covid, s'il y en a une, parce que rien n'est impossible de ce point de vue, et il peut montrer qu'il a quand même, bon, qu'il a préservé un certain nombre de valeurs. Je ne dis pas que tout son bilan, mais simplement, il faudrait qu'il peut-être fasse une campagne qui ne soit pas à nouveau le remake du « en même temps ». Parce que le « en même temps »
on voit bien, d'ailleurs,
est fini.
On voit bien
c'est
que
lui, en même temps.
On voit bien que Gérard Darmanin, par exemple, lorsqu'il dit « le président de la République défend les valeurs traditionnelles de la droite », on voit bien qu'il essaie d'en faire un candidat, mettons, de droite modérée. Et c'est là-dessus, sans doute, que ça se jouera. Mais c'est là-dessus aussi que la bagarre avec Bertrand peut se passer. Oui, donc, au fond, il y aura trois droites. Il y aura trois droites à ces élections, à cette élection présidentielle. La droite de Marine Le Pen, la droite de Xavier Bertrand et la droite du président de la République.
Catherine Ney.
Oui, non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une enquête qui a été faite en Italie, en Allemagne, en France et en Angleterre, et qui montre que les idées de droite, maintenant, sont majoritaires. Et qu'en France, la gauche, les gens qui se disent en état gauche, ne sont plus que 24% contre 38% à droite et 17% au centre. Donc, vous voyez, comment vont se dispatcher,
se répartir
ce pôle de voix qui sont à droite et au centre droit, vous voyez. Donc, est-ce qu'il peut toujours être en même temps?
C'est
aussi
l'un des enjeux.
Voilà.
Est-ce qu'il n'est pas en même temps, quand il donne son interview à elle cette semaine sur les questions de société, de racialisation, dont on sait que ça fait débat à gauche, hein, notamment.
Non, mais derrière Charles ça, Villeneuve. Il va et sur CBS, droite, hein. Il vous dit qu'une partie de l'histoire de France doit être de toute façon repensée, déconstruite. Oui. En même temps, il vient nous parler de racialisme là.
Et qu'il ne faut pas toucher au statut.
Je pense que ce sont des erreurs de parcours.
C'est des sincérités successives.
Et
c'est ça qui est terrible.
Non, des sincérités en même temps.
Pourquoi une erreur de parcours, Charles Villeneuve ?
Parce que la droite classique, telle qu'elle va se répartir, comme vient de l'expliquer sur le plan européen, mais sur le plan français, eh bien, elle a horreur de ce genre de remise en cause et de discours qui attrape tout. Parce qu'il ne fait que ça. Quand il parle de racialisme et que derrière il veut déconstruire une partie de l'histoire de France, etc., c'est tout et n'importe quoi. C'est le en même temps.
Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que sur des réformes sociétales, il peut quand même avoir plus facilement les voix du centre et donc ajouter à sa position, à certaines positions droitières, les voix du centre, et que c'est sur ce terrain-là qu'il les aura plus facilement.
Mais il avait été élu grâce aux voix de gauche, quand même, n'oublions jamais ça.
Oui, bien sûr.
Et il en a perdu les
deux. Non, mais la preuve, c'est que ce sont, regardez, entre nous, ce sont les discussions sociétales qui nous opposent le plus.
Merci, merci les grandes voix, c'est déjà fini pour ce débat, une fois de plus passionnant. Un grand merci à vous, Michel Cotin, un grand merci, Catherine Ney, un grand
c'est
merci,
nous qui vous remercions.
Charles Villeneuve, et merci Gérard Carreau.
Et merci
pour cette
à toi.
Saison passionnante que vous pouvez retrouver en podcast sur europe1.fr. Je tiens également à remercier chaleureusement Jean-Luc Arblad
réalisation.
Et Capucine Patouillet qui m'aide précieusement à la préparation de cette émission.
Bravo.
Et à Lionel Gougelot qui assurait l'intérim quand il le fallait. J'espère, chers auditeurs, que nous avons réussi à vous faire prendre un peu de hauteur sur cette actualité politique foisonnante. Je vous souhaite un bel été sur Europe 1. À très bientôt. Tout de suite, Laurent Mariotte avec la table des bons vivants. Bonjour mon cher Laurent.
Bonjour Sébastien et bonjour.
Bonjour.
Alors ce matin, on va s'intéresser, tiens, à un fromage qui sent bon les vacances, la feta, vous savez, au lait de brebis. On va se régaler avec.
Salé.
Et puis nous ferons aussi un beau dossier sur les desserts fruités rassembleurs de l'été avec le chef pâtissier de Yannick Aleno et Didier Van Kovelaert sera des nôtres aussi. Voilà, vous savez tout. Allez à table.
À table, à tout de suite.
Europe 1.